J'aimerais commencer cette session en vous posant une question. Est-ce que tous les gens dans votre église sont au même niveau spirituel? Bien sûr, cela vous fait rire parce que, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Les églises regroupent des gens qui sont à des niveaux différents d'engagement spirituel et de maturité spirituelle. Il se peut que vous ayez des gens qui viennent à votre église, mais qui ne sont pas encore des chrétiens. Ils découvrent les paroles de Christ et ils veulent juste voir ce que c'est. Et puis aussi, il y a d'autres chrétiens qui sont de nouveaux croyants. Ils viennent juste d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Puis vous avez encore d'autres chrétiens qui croissent spirituellement. Ils grandissent dans leur foi. Vous en trouverez d'autres qui sont au service de l'Église et qui ont un ministère. Et vous avez ceux qui partagent leur foi et par le fait même sont devenus des responsables dans votre Église. Dans cette session, je voudrais partager avec vous comment faire une évaluation de votre Église en termes de niveau d'engagement spirituel. Une des manières d'évaluer votre Église, c'est de réaliser que vous n'avez pas seulement 5 objectifs, mais que vous avez 5 objectifs à atteindre avec 5 groupes de personnes différents, 5 groupes cibles différents. Et ces groupes cibles sont classés selon leur niveau d'engagement spirituel et selon l'objectif qu'ils veulent atteindre. Je vais vous expliquer cela à l'aide d'un diagramme que nous utilisons dans notre Église et que nous appelons les cercles d'engagement spirituel. 5 cercles concentriques qui représentent 5 niveaux différents d'engagement spirituel. Regardez. Ces cercles représentent 5 niveaux différents d'engagement qui correspondent aux 5 objectifs de votre Église. Les gens dans le noyau ont un ministère. Puis vous formez des disciples parmi les gens engagés. Vous communiez fraternellement dans l'assemblée des fidèles. Vous louez avec l'assistance et vous évangélisez dans votre communauté. Peu importe le nom que vous donnez à ces 5 cercles, vous pouvez inventer vos propres noms, mais ce qu'ils représentent, ce sont 5 niveaux distincts de maturité spirituelle. J'aimerais maintenant les expliquer en détail. Alors, regardez bien ce diagramme. D'abord, au centre, c'est le cercle qui représente le noyau de votre Église. Ce sont les gens qui sont les plus engagés dans votre Église. Ce sont les gens qui sont au service de votre Église. Ils chantent, ce sont les musiciens. Ils enseignent l'école du dimanche ou les études bibliques, ou bien les petits groupes. Ils peuvent être appelés diacres dans votre Église ou anciens. Ce sont les gens qui préparent tous les différents ministères et les événements de votre Église. Le noyau dans votre Église, c'est le groupe le plus petit, parce que ce sont les gens qui sont le plus engagés. Le groupe suivant, le cercle suivant, remarquez qu'il est un peu plus grand que celui du noyau parce qu'il y a plus de gens qui en font partie. Nous appelons ce groupe les engagés. Avez-vous des gens dans votre église qui sont spirituellement adultes et qui grandissent vers une maturité spirituelle mais pour une raison ou une autre ne sont pas au service de l'église? Oui, bien sûr. Nous appelons ces personnes les engagés. À Saddleback, nous leur demandons de prendre un engagement envers 3 habitudes pour qu'ils croient spirituellement. Je vais vous expliquer cela dans une autre session. Ils doivent participer à un cours appelé « Comment atteindre une maturité spirituelle ». Et ces personnes ont un moment personnel avec Dieu chaque jour où ils lisent la Bible et ils prient. Ils soutiennent l'Église financièrement avec leurs dîmes et leurs offrandes et ils font partie d'un petit groupe. Ce sont les gens engagés dans votre Église. Ils sont engagés à grandir spirituellement. Le groupe suivant est un groupe un peu plus grand que nous appelons l'Assemblée des fidèles. Ce sont les membres de votre Église, les gens qui font partie de la famille de votre Église. Avez-vous dans votre Église des gens qui font partie de la famille de l'Église, mais qui ne sont ni spirituellement adultes, ni au service de l'Église? Oui, bien sûr, vous en avez. Et nous appelons ces personnes l'Assemblée des fidèles. Ce sont des gens qui viennent à l'Église et qui sont engagés envers les autres croyants. Et même s'ils ne sont pas spirituellement adultes, ils sont engagés à faire partie de votre Église. Le groupe suivant est représenté par un cercle un peu plus grand parce qu'il représente probablement un plus grand groupe. Ce sont les gens qui viennent au service de votre Église. Donc, parmi ceux qui viennent au service, il y en a sans doute qui sont à des niveaux spirituels différents. Certains sont très engagés, tels que ceux qui sont dans le noyau. Certains grandissent spirituellement, tels que ceux qui sont dans le cercle des engagés. Certains sont membres de l'Église et il y a sûrement des personnes qui viennent au service et qui ne sont pas encore devenus des chrétiens. À l'église de Saddleback, nous appelons ce groupe l'assistance, parce que c'est un grand groupe de personnes, et la seule chose à laquelle ils sont engagés, c'est de venir régulièrement au culte. Et puis, le plus grand cercle de tous, c'est votre communauté. Il représente tout le monde qui se trouve autour de votre église, dans votre village, dans votre localité, ou bien encore dans votre ville. La communauté, c'est votre lac, où vous allez pêcher les hommes. Ce sont ces personnes-là que vous voulez convertir à Jésus-Christ. Alors la stratégie d'une église menée par ces objectifs, c'est d'orienter les gens du cercle extérieur vers le cercle intérieur. Autrement dit, d'abord il faut aller dans la communauté, convertir des gens à Jésus-Christ. Vous devez partager avec eux la bonne nouvelle et les aider à connaître Jésus-Christ. Puis vous les invitez éventuellement au culte de votre église. Et lorsqu'ils commencent à venir à l'église, ils ne appartiennent plus à ce qu'on appelle la communauté, mais à l'assistance. L'assistance, ce sont les gens qui viennent dans votre église chaque semaine et qui sont engagés à des niveaux différents, mais au moins ils sont engagés à venir à l'église. Lorsqu'une personne a accepté Jésus-Christ et qu'elle est baptisée et qu'elle devient membre de votre église, elle passe de l'assistance au cercle suivant qu'on appelle l'assemblée des fidèles. Ce sont en fait les membres de votre église. Ils venaient en tant que spectateurs dans votre église et maintenant ils sont engagés dans le corps de Christ et ils deviennent des membres actifs dans votre église. Ensuite, notre but, c'est d'orienter les gens du cercle des engagés vers... de l'assemblée des fidèles vers le cercle des engagés. Les gens engagés, ce sont les gens qui grandissent spirituellement. Et nous voulons aider les gens non seulement à être intégrés dans la famille de l'Église, mais nous voulons aussi qu'ils développent les habitudes nécessaires à la croissance spirituelle. Nous voulons que ces habitudes deviennent naturelles dans leur vie. Maintenant, la stratégie d'une Église menée par ces objectifs, c'est d'orienter les gens vers ces 5 niveaux d'engagement, de les faire passer du cercle extérieur au cercle intérieur, puis de les renvoyer. Vous les faites passer de la communauté, les gens autour de vous qui ne connaissent pas Christ, à l'assistance, où ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ et où ils assistent au culte. Puis vous les faites passer de l'assistance à l'assemblée des fidèles, où ils sont baptisés et où ils deviennent membres de la famille de votre Église. Puis vous les faites passer de l'assemblée des fidèles au cercle des engagés, où ils s'engagent à former des habitudes nécessaires pour la croissance spirituelle et ils commencent leur voyage vers la maturité spirituelle. Et puis vous les faites passer du cercle des engagés au noyau, le centre de votre Église, où ils s'engagent à avoir un ministère et une mission personnelle dans le monde. Que faites-vous du noyau de votre Église? Vous le renvoyez à nouveau dans la communauté, afin que ce processus puisse se répéter encore et encore et encore. Lorsque vous étudiez le ministère de Jésus, vous découvrez que Jésus a toujours commencé là où les gens se trouvaient, mais il ne les a jamais laissés là. Il rencontrait les gens à leur propre niveau d'engagement, et il les acceptait exactement à ce niveau-là. Et tout doucement, il les aidait à approfondir de plus en plus leur engagement envers Jésus-Christ. Ce que nous avons fait à l'aide de ce diagramme, c'est de vous montrer les 5 niveaux d'engagement que vous avez déjà dans votre Église. Et lorsque je parlais de ces 5 cercles, vous pensiez probablement à certaines personnes que vous connaissez et qui représentent chaque catégorie. Avec cette base, réalisant qu'il y a 5 objectifs pour l'Église et qu'il y a 5 niveaux d'engagement différents, je vais maintenant vous expliquer 9 manières dont votre Église peut devenir une Église menée par ses objectifs. Premier point. Si vous commencez une Église nouvelle, vous êtes un fondateur d'église, et si vous commencez une église nouvelle à partir de rien, bâtissez-la sur un seul objectif à la fois. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque j'ai commencé l'église de Saddleback, il y a bien des années, la première année, mon seul but était d'aller dans la communauté et de partager Jésus-Christ. Et j'ai commencé par le porte à porte dans ma communauté et par rencontrer des gens. J'ai commencé à expliquer la bonne nouvelle et comment ils pouvaient connaître Jésus-Christ. Ensuite, j'ai commencé à avoir un culte le dimanche où je les invitais et j'y prêchais un service évangélique. Durant la première année de l'Église, tout ce que je pourrais faire, c'était d'avoir des services de nature évangélique et d'inviter des gens de la communauté dans le cercle de l'assistance. L'assistance a commencé à grandir petit à petit. La deuxième année, je me suis concentré sur la manière de faire passer les gens de l'assistance où ils venaient entendre parler de Christ dans l'assemblée des fidèles, où ils commençaient à prendre l'engagement à devenir membres. Et je me suis concentré sur la manière de transformer les spectateurs en membres. La troisième année, j'ai haussé le niveau en demandant aux gens de prendre un engagement plus important vers Christ et en leur lançant le défi d'approfondir leur vie spirituelle et de grandir vers une maturité spirituelle. Je voulais les faire passer de l'assemblée des fidèles vers le cercle des engagés et je leur ai expliqué plus en détail les vérités du Seigneur. Et puis la quatrième année, j'ai commencé à faire passer les gens du cercle des engagés vers le noyau, où ils ont commencé à avoir des ministères, et où ils ont commencé à développer des ministères individuels que Dieu veut utiliser dans notre communauté et dans notre Église, et qui sont basés sur leurs dons et leurs talents. Cela peut sembler être lent, mais vous devez vous rappeler qu'il faut du temps pour qu'une Église grandisse sainement. Si vous êtes déjà dans une Église existante, vous n'allez pas tout recommencer depuis le début, mais vous pouvez avancer beaucoup plus vite à travers le cercle. Vous ajoutez un objectif à la fois. Lorsque les 5 objectifs sont présents, alors vous commencez à construire une Église équilibrée qui accomplit 5 choses. Mais il est difficile d'avoir ces 5 choses en même temps, tout au début, si vous venez de démarrer une nouvelle Église. Vous pouvez utiliser ces cercles de niveau d'engagement comme stratégie. Ce que je veux dire, c'est que si vous implantez une Église nouvelle, et si vous commencez dès sa fondation, vous devez construire votre Église en commençant par l'extérieur et non par l'intérieur. Vous avez peut-être entendu parler ou dire le contraire dans d'autres séminaires ou dans des livres ou autre part. Souvent, on nous dit de commencer par le noyau, de bien les former à s'engager pour Jésus-Christ et de leur enseigner à devenir des disciples. Et ensuite, ils peuvent amener d'autres gens à Christ dans votre ville ou village. En réalité, c'est le contraire qu'il faut faire. Plus les chrétiens passent du temps ensemble, moins ils ont tendance à être efficaces, évangéliquement parlant. Les gens les plus efficaces pour l'évangélisation, ce sont les nouveaux croyants, parce qu'ils connaissent beaucoup de monde. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, et n'ont pas peur de partager leur foi avec des non-croyants, parce qu'ils étaient eux-mêmes des non-croyants quelques jours auparavant. Je suggère que vous commenciez par votre communauté. Faites connaissance avec les gens, découvrez qui ils sont, et puis invitez-les au culte que vous avez spécialement préparé pour eux. Un culte de nature évangélique qui est conçu spécialement pour les non-chrétiens, et dans une prochaine session, nous allons aborder ce sujet. Et puis, lorsqu'ils se convertissent à Christ, vous les baptisez, vous les faites devenir membres de l'Église, puis de l'Assemblée des fidèles. Ils deviennent ensuite des engagés, où ils grandissent vers une maturité spirituelle, puis ils parviennent au noyau. Vous commencez par votre communauté, et non par le noyau. Alors, ce que je vous ai expliqué a pris seulement quelques minutes, mais en réalité, ça prend beaucoup plus de temps. Mais ne vous découragez pas. Construire quelque chose de durable prend du temps. Lorsque Dieu fait pousser un champignon, ça lui prend environ 6 heures. Lorsque Dieu fait pousser un arbre géant, ça lui prend 40, 50 ou 60 ans. Maintenant, la question est de savoir si vous voulez que votre Église soit un champignon ou un arbre géant. Construire quelque chose de solide, de durable, qui va être construit pour l'éternité, prend du temps. Mais vous devez construire votre Église sur un seul niveau d'engagement à la fois. La deuxième chose que vous pouvez faire pour être une Église menée par ses objectifs, c'est de développer un plan pour chacun des 5 objectifs de votre Église. Vous connaissez maintenant ces 5 objectifs, la louange, l'évangélisation, la communion fraternelle, l'enseignement et le ministère. Et vous devez concevoir un plan spécifique pour réaliser chaque objectif. Je vais vous donner l'exemple de ma propre Église. À l'Église de Saddleback, nous avons conçu un plan pour chacun de ces objectifs, où les 5 niveaux d'engagement sont représentés. Par exemple, pour l'évangélisation, nous évangélisons dans notre communauté et nous avons créé ce que nous appelons des événements ponts. Nous appelons cela des événements ponts parce qu'ils représentent un pont entre l'Église et la communauté. Et ce que nous voulons faire, c'est construire un pont entre l'Église et la communauté, un pont que Jésus-Christ puisse utiliser. Quelquefois, nos événements ponts sont très simple, comme par exemple une petite fête que nous avons organisée récemment où nous avons invité toute notre communauté. Nous avons fait des jeux, nous avons mangé, nous avons juste organisé ces petites fêtes pour que les gens se sentent bienvenus et pour qu'ils puissent se détendre avec nous. Et d'autres fois, nous avons organisé des événements spéciaux tels que des concerts de musique ou des orateurs. Bien sûr, Pâques est toujours un événement pont où nous invitons les gens à l'église le dimanche de Pâques. Ce n'est qu'un exemple. Ensuite, nous avons un plan spécial de louange pour l'assistance, et c'est ce qu'on appelle notre culte évangélique du week-end. Ce culte est spécialement conçu pour que les chrétiens de notre église invitent leurs amis. Et tout ce que nous faisons au cours de ce culte, les chants que nous chantons, les prières que nous prions et les messages que je prêche sont en fait conçus spécialement pour des gens qui ne connaissent rien du tout au sujet de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne savent pas ce que c'est le christianisme ou ce que c'est l'Église, mais si vous les invitez à ce culte, ils seront capables de comprendre ce qui est dit parce que c'est à leur niveau. Donc, pendant le week-end, le programme des services que nous avons préparé pour le samedi et le dimanche est réservé à l'assistance. En ce qui concerne l'Assemblée des fidèles, le plan clé pour cette dernière, ce sont les petits groupes. Nous disons aux gens, pour vraiment sentir que vous appartenez à la famille de l'Église, vous devez faire partie d'un petit groupe. C'est dans ce petit groupe que vous allez faire connaissance d'autres personnes et elles vont faire votre connaissance et vous pourrez partager vos sujets de prière et elles peuvent aussi prier pour vous. Et elles peuvent vous aider lorsque vous traversez des moments difficiles. Donc, le programme clé pour notre assemblée de fidèles, pour les membres de notre Église, sont les petits groupes où ils peuvent trouver une communion fraternelle bien chaleureuse. Le programme clé pour les engagés, ceux qui grandissent vers une maturité spirituelle, c'est ce que nous appelons la réunion du mercredi. Nous avons une réunion spéciale les mercredis soirs où les gens viennent pour une étude biblique approfondie. Et c'est pour les gens qui veulent grandir, pour ceux qui se sont engagés à atteindre une maturité spirituelle. Ce n'est pas conçu pour les non-chrétiens. Nous n'amenons pas des non-chrétiens à nos réunions du mercredi soir. C'est seulement pour ceux qui sont décidés à grandir spirituellement. Enfin, notre programme clé pour le noyau, ce sont ceux qui ont un ministère dans notre Église, les responsables dans notre Église, ceux qui servent activement en Jésus-Christ, et nous appelons ce programme la formation des responsables. Et nous avons ce programme une fois par mois à l'Église de Saddleback, où tous les responsables et tous les laïcs et tous les gens qui sont au service d'un ministère de l'Église, tels que les responsables des petits groupes, les moniteurs d'école du dimanche, les musiciens et les directeurs de louanges, se réunissent pour une session mensuelle de formation de responsables. Je suggère que vous aussi vous développiez un tel programme pour chacun de vos objectifs. Je dois vous dire ceci. Aucun programme est supposé d'être éternel. Les programmes changent, et quelque chose qui marche bien pendant 4 ou 5 ou même 10 ans aurait peut-être besoin d'être changé, ou bien il faudrait un nouveau programme. Les objectifs ne changent jamais, mais les programmes vont changer souvent, pendant que votre Église grandit et se transforme, et vous aurez besoin de nouveaux programmes. La troisième chose que vous devez faire pour devenir une Église menée par les objectifs de Dieu, c'est des cours où vous enseignez chaque objectif. Organisez des cours de formation sur la communion fraternelle, des cours sur la louange, des cours sur la croissance spirituelle, des cours qui enseignent aux gens comment avoir un ministère et comment partager leur foi. À l'Église de Saddleback, nous offrons une série de cours de formation et nous encourageons chaque membre à y participer. Nous appelons cela nos cours de base de Saddleback. Et le premier cours est destiné aux nouveaux croyants, lorsque vous êtes un nouveau croyant. Nous avons donc un cours appelé « Comment devenir membre de notre Église » qui explique ce que cela veut dire de faire partie du corps de Christ et ce que cela signifie de s'engager à être en communion avec la famille de l'Église. Puis nous avons un cours qui s'appelle « Comment grandir pour atteindre une maturité spirituelle » qui fait suite au cours précédent. Après avoir suivi ce cours, vous pouvez suivre un cours qui s'appelle « Comment découvrir votre ministère ». Et après avoir suivi ce cours, « Comment découvrir votre ministère dans l'Église ?» Nous avons un cours qui s'appelle « Comment partager votre foi ?» ou « Comment découvrir votre mission personnelle dans le monde ?» Là aussi, nous utilisons un symbole pour aider les membres de notre Église à comprendre ces cours. Vous savez, aux États-Unis, nous jouons le jeu du baseball. Peut-être que vous connaissez ce sport, ou peut-être pas du tout. Mais le baseball est un jeu où quelqu'un essaye de frapper une balle avec une batte, puis ensuite il court autour de plusieurs bases. Cela ressemble un peu à ça. Puisque dans notre pays, tout le monde comprend les règles du jeu du baseball, nous aimions bien l'utiliser pour illustrer les cours que nous offrons, et nous aimons déplacer les gens à ce que nous appelons de base en base. De la première base à la deuxième base, à la troisième base, à la quatrième base, jusqu'à ce que le tour complet soit fait. Mais dans votre pays, vous pouvez utiliser un autre diagramme ou une autre illustration. Je connais certaines églises au Brésil qui emploient un terrain de football pour illustrer les différentes étapes de la croissance dans leur cours, courir à travers le terrain de foot jusqu'à ce que les gens marquent leur but. Je connais des églises guidées par des objectifs en Russie qui utilisent une échelle pour illustrer les étapes de la croissance en commençant par le premier barreau, puis le second barreau, le troisième barreau et le quatrième barreau pour atteindre une maturité spirituelle. Mais en Amérique, nous préférons utiliser le terrain de baseball où nous disons qu'une personne arrive à la première base. Première base, quand elle a dédicacé sa vie à Christ et qu'elle a été baptisée et qu'elle a adhéré à l'Église. Et nous avons un cours initial, le premier de la série, cours numéro 100, au cours numéro 101. Et ce cours est conçu pour aider les gens à comprendre ce que signifie faire partie de l'Église. Une fois que vous êtes à la première base, allez vers la deuxième base et assistez au deuxième cours qu'on appelle la classe de la deuxième base, qui s'intitule « Découvrir ce qu'est la maturité spirituelle ». Au cours de cette session, nous enseignons aux gens les habitudes de la croissance spirituelle. Une fois la seconde classe terminée, vous pouvez assister au troisième cours, cours 301, ou « Découvrir mon ministère ». Durant ce cours, nous enseignons aux gens comment ils peuvent découvrir leurs dons, leurs talents, leurs capacités, et ils découvrent que Dieu les a formés pour accomplir un ministère. Une fois que vous avez participé à ce cours, vous passez à la quatrième base, qui est le cours de la quatrième base, cours 401, « Découvrir comment partager sa foi » ou « Découvrir ma mission personnelle ». J'aimerais vous encourager à développer du matériel de classe pour votre église qui pourrait aider les gens d'aller d'objectif en objectif en objectif. Faites-les passer de l'évangélisation à la louange, à l'enseignement, au ministère, puis renvoyez-les au dehors pour évangéliser, tout en gardant la communion de l'Église de Dieu. La quatrième chose que vous devez faire pour devenir une Église menée par ses objectifs, c'est de former des petits groupes ayant le même but. Lorsque vous formez un petit groupe qui se réunit dans une maison, il faut insister que chaque groupe doit s'efforcer d'atteindre les cinq objectifs, que le but du groupe, ce n'est pas seulement la communion fraternelle. Ce n'est même pas une prunitude biblique, mais chaque petit groupe doit aussi louer et chaque petit groupe doit aussi projeter de faire collectivement des actes de service à faire ensemble. Et chaque petit groupe doit avoir pour but d'évangéliser, où les gens amènent des nouvelles personnes dans le groupe qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui peuvent être amenés à avoir une relation personnelle avec lui. Si votre petit groupe fonctionne autour de ces cinq objectifs, alors ce que vous faites, c'est d'avoir chaque groupe qui accomplit les cinq fonctions, les cinq objectifs, les cinq raisons d'exister de l'Église. Et votre Église va grandir simultanément de manière plus saine et plus solide. La cinquième chose que vous devez faire pour avoir une Église menée par ses objectifs, c'est de répartir vos travailleurs bénévoles selon les objectifs. Alors dans votre Église, si vous faites un sondage parmi tous ceux qui viennent dans votre Église, vous allez trouver que certains d'entre eux sont déterminés à louer Dieu et que d'autres sont déterminés à aider les chrétiens à grandir. D'autres sont déterminés à partager leur foi avec des non-croyants et d'autres sont déterminés à aider les gens en difficulté et avoir un ministère auprès d'eux. Tel que je l'ai déjà dit, Dieu rassemble toutes sortes de personnes qui ont ce que nous appelons un cœur différent. Des passions différentes, et nous avons une passion pour un objectif différent. Et il nous rassemble tous, afin que les cinq objectifs soient mis en valeur. Pour pouvoir faire cela, vous devez répartir les membres de votre Église en équipes. Formez une équipe qui va s'assurer que vous faites de l'évangélisation dans votre Église. Formez une équipe qui va s'assurer que les chrétiens grandissent dans leur foi, et formez une autre équipe qui va s'assurer que les besoins de chaque personne dans l'Église soient satisfaits, que la communion fraternelle existe bien. Et former une autre équipe pour aider à préparer les moments de louange et qui va faire entrer les gens dans la présence de Dieu. Si je commençais une église, disons, depuis le début, voici ce que je ferais. Supposons que je me sois installé dans un village et que j'y ai trouvé des gens et je leur ai parlé de Christ et ils sont devenus chrétiens. Et j'ai alors formé un petit groupe de 8 ou 10 personnes. Je leur ai dit, nous allons commencer une église ensemble. La première chose que je ferai, c'est d'aider chaque personne qui se trouve dans ce groupe à identifier sa passion pour un des objectifs. Je trouverai quelqu'un qui me dirait, « Vous savez, je veux vraiment aider les gens à se sentir inclus dans la famille de Dieu, et je voudrais particulièrement aider ceux qui sont déjà membres de l'Église. Je veux m'assurer que chacun soit aimé et que leurs besoins soient satisfaits dans la famille de l'Église. » Alors je demanderai à cette personne, « Voulez-vous être responsable de ce premier barreau ?» Ou aux États-Unis, voulez-vous être responsable de la première base? Et aussi, voulez-vous m'aider à enseigner un cours pour les nouveaux membres? Et une fois qu'ils sont devenus membres, voulez-vous vous assurer que les besoins de chaque membre soient satisfaits, qu'on vienne leur rendre visite et que l'on s'occupe d'eux et qu'ils se sentent aimés? Ensuite, je rencontre une autre personne qui a une passion pour aider les chrétiens à grandir. Alors je lui demande, voulez-vous devenir responsable du deuxième barreau, de la deuxième base? Votre travail consiste à m'aider à enseigner le cours « Comment atteindre une maturité spirituelle ». Votre travail consiste aussi à m'aider à planifier toutes les études bibliques, les cours de formation et les événements que nous allons organiser pour aider les chrétiens à grandir. Et peut-être que votre travail peut aussi consister à m'aider à trouver des versets bibliques que nous pouvons tous mémoriser ensemble chaque semaine. Donc, le responsable de ce deuxième barreau, de cette deuxième base, c'est la personne qui prend en charge la formation des disciples, tout comme la personne responsable de la première base prend en charge la communion fraternelle. Ensuite, je rencontre quelqu'un dans l'Église qui a comme une passion d'aider chaque chrétien à trouver leur fonction, leur ministère, leur place au service de l'Église. Et je lui demande, voulez-vous devenir responsable de la troisième base? Votre travail consiste à m'aider à planifier le cours. Comment découvrir votre ministère personnel? Et dans ce cours, nous enseignons aux gens comment ils peuvent découvrir leurs dons spirituels, leurs passions, et nous les aidons à regarder leur vie passée et à réaliser que Dieu peut utiliser toutes les expériences de leur vie pour qu'ils soient efficaces dans leur ministère. Et nous devons nous assurer que chaque personne trouve sa place au service de l'Église. C'est votre responsabilité principale en tant que responsable de la troisième base. Ensuite, je rencontre quelqu'un dans l'Église qui a une passion pour l'évangélisation, pour aller dans le monde. Alors je demande à cette personne, voulez-vous devenir responsable de la quatrième base? Votre travail consiste à m'aider à former les chrétiens de notre Église à apprendre à grandir et à partager leur foi, et aussi à apprendre à donner un témoignage qu'ils pourront partager avec des personnes non-croyantes. Ensuite, je rencontre quelqu'un qui a une passion pour la louange. Et je lui demande, voulez-vous être le responsable de la louange? Et voulez-vous m'aider à planifier les services de louange afin que lorsque les gens viennent à l'Église, ils puissent sentir la présence de Dieu et voir la puissance de Dieu et entendre la parole de Dieu prêchée clairement. Ainsi, les gens peuvent venir à Christ et les chrétiens peuvent grandir. J'ai donc trouvé 5 personnes différentes qui deviennent chacune un champion ou un sponsor ou un responsable pour chacun des 5 objectifs. Si mon Église comprenait seulement 10 personnes, je peux déjà donner des responsabilités à 5 personnes. Et lorsque l'Église grandit, j'ajoute des personnes pour aider les responsables à accomplir leurs objectifs. Et lorsque l'Église grandit davantage, je forme alors une équipe de personnes. Ainsi, ce n'est pas seulement une personne qui aide l'Église à être équilibrée, mais plusieurs personnes qui aident l'Église à être équilibrée dans chacun des 5 objectifs. En réalité, toute votre Église doit être organisée autour de ces 5 objectifs, afin que chacun puisse faire partie d'une équipe qui prend en charge un des 5 objectifs et qui est engagée à atteindre une des 5 cibles, évangéliser dans la communauté, s'occuper de la louange dans l'assistance, communier avec l'Assemblée des fidèles, offrir de la formation aux gens engagés et avoir un ministère avec le noyau. Cela produira un équilibre qui va produire une bonne santé, et une bonne santé produit la croissance. La 6e chose à faire pour être une Église menée par ses objectifs, c'est de prêcher en ayant un but. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si vous étiez le pasteur et si vous deviez préparer les sermons, vous devez constamment vous demander, est-ce que je donne une importance égale à chacun des 5 objectifs? Et dans l'année, en un an, vous devez prêcher sur le ministère dans l'Église. Comment trouver votre ministère personnel et l'importance pour chaque chrétien d'avoir un ministère. Vous devez prêcher sur la maturité, comment atteindre une maturité spirituelle. Vous devez prêcher sur la louange, comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu, apprendre à écouter Dieu et à découvrir sa volonté. Et comment est-ce que je peux louer Dieu de tout mon cœur et de tout mon âme. Vous devez prêcher sur la communion fraternelle, comment construire de bonnes relations. Dans de nombreux pays, les chrétiens viennent à l'Église, puis ils repartent aussitôt chez eux, et ils ne prennent pas le temps de se connaître. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu désire que nous soyons une famille. Dieu veut que nous agissions comme frères et sœurs dans la famille de Dieu. Donc vous devez enseigner aux gens comment construire des relations d'amitié les uns envers les autres dans la famille de Dieu. Ensuite, vous devez leur enseigner l'évangélisation, comment partager leur foi, et leur enseigner comment apporter la bonne nouvelle aux autres, et qu'en partageant la bonne nouvelle, ils peuvent amener des amis à l'Église pour qu'ils entendent parler du plan du salut. La septième chose à faire pour être une église menée par ses objectifs, c'est de planifier vos dépenses d'argent, l'argent de l'église, et de le dépenser pour les objectifs. Ne dépensez pas tout votre argent dans l'évangélisation. Ne dépensez pas tout votre argent pour la formation de disciples. Ne dépensez pas tout votre argent pour un seul objectif, mais dépensez-le équitablement. Il faut que l'argent que les gens donnent en offrande serve à maintenir l'équilibre dans l'Église, pour que l'Église soit saine. Et tout l'argent, chaque centime, chaque montant que vous dépensez, doit être dépensé sur un des cinq objectifs. Sinon, si ce n'est pas un des objectifs de l'Église, alors ne dépensez pas d'argent. Ensuite, huitièmement, vous pouvez planifier votre calendrier selon les objectifs. Je m'explique. Cela veut dire que vous mettez l'accent sur chaque objectif durant différents mois de l'année. Un mois, vous insistez sur la louange pendant tout le mois, en expliquant comment grandir dans la louange. Le mois suivant, vous pouvez insister sur le ministère, expliquer que chaque personne dans l'Église doit avoir un ministère. Vous les enseignez, puis vous les invitez à s'engager dans un ministère ou à commencer un nouveau ministère. Un autre mois, vous insistez sur la communion fraternelle. Et pendant ce mois, vous vous assurez que chaque personne dans l'Église fasse partie d'un petit groupe où leurs besoins puissent être satisfaits et où ils peuvent recevoir la prière. Je pense que vous comprenez bien qu'avec seulement cinq objectifs, vous pouvez insister sur chaque objectif deux mois par an. Et il vous reste encore beaucoup de temps pour faire autre chose. Et enfin, vous pouvez faire une évaluation de votre Église en utilisant les cinq objectifs en tant que standard. Vous devez constamment vous demander, est-ce que dans notre Église, nous faisons ce que Jésus attend de nous? Est-ce que nous visons à atteindre les cinq objectifs ou sommes-nous déséquilibrés? Est-ce que nous insistons trop sur un objectif tel que la croissance spirituelle, négligeant l'évangélisation? Ou bien est-ce que nous insistons trop sur l'évangélisation et nous négligeons le ministère de chaque chrétien? Ou nous insistons sur le ministère de chaque chrétien, mais nous n'allons pas assez loin dans la louange? Utilisez les cinq objectifs pour évaluer votre Église et pour vous assurer qu'elle est saine et équilibrée. Pour conclure, je voudrais vous parler de ce que j'appelle les quatre priorités des églises menées par leurs objectifs. Voici comment elles devraient être classées par l'ordre d'importance dans votre église. La chose la plus importante dans une église, ce sont les objectifs de Dieu. Si on ne s'efforce pas d'atteindre les objectifs de Dieu, alors on ne forme pas une église. Donc les objectifs viennent en premier. Ils sont le motif de nos passions, le sujet de nos prières et la raison de nos efforts. Ils existent selon l'importance que nous leur donnons. Les objectifs sont la chose la plus importante. La deuxième chose qui est importante dans l'Église, ce sont les gens, le peuple de Dieu. Les gens sont importants, mais ils ne le sont pas tant que les objectifs. Parce que si les gens sont la chose la plus importante dans votre Église, alors c'est un club ou une organisation, mais ce n'est pas l'Église de Dieu. Les gens sont là pour atteindre les objectifs de Dieu. La troisième priorité pour chaque Église, ce sont les programmes. Les programmes, ce sont les activités, les événements, les études bibliques et les cours que vous planifiez pour aider les gens à atteindre les objectifs. Les programmes ne doivent jamais être la chose la plus importante dans une église. Ils peuvent changer et être supprimés, et il y aura des nouveaux programmes, mais les plans de Dieu ne changent jamais. Et puis en dernier, il y a le local, le lieu de rencontre. Beaucoup de gens pensent que la chose la plus importante, c'est le local. En fait, beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Vous n'avez pas besoin de bâtiment. À l'église dont je suis le pasteur, nous nous sommes réunis pendant 15 ans dans des maisons, puis dans des parcs, et dans des bureaux, et même dans des écoles, et dans beaucoup d'autres endroits. En fait, nous avons utilisé 79 bâtiments différents avant d'avoir trouvé un lieu permanent où nous pouvions nous réunir. Et notre église avait atteint plus de 10 000 personnes avant que nous ayons construit nos premiers bâtiments. Donc, vous n'avez pas besoin de bâtiments. Souvenez-vous que ce n'est pas la priorité principale. Avoir de l'argent ou des bâtiments, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des personnes qui veulent atteindre les objectifs de Dieu. Si vous agissez ainsi, cela plaît à Dieu. Votre église sera saine et la croissance se produira automatiquement. Pour conclure cette session, je voudrais prier pour vous. Pour que Dieu vous utilise pour construire une église menée par ses objectifs, dans votre ville ou bien dans votre village. Et dans les sessions à venir, nous allons étudier chacun de ces cinq cercles et chacun de ces cinq objectifs, et je vais vous expliquer plus en détail comment faire passer les gens de l'extérieur à l'intérieur de votre Église. Maintenant, prions ensemble. Notre Père, je veux te remercier d'avoir créé l'Église. Merci parce que c'est la chose la plus merveilleuse que tu aies créée. Je prie que tu nous guides à construire nos vies et à construire notre Église dans un but précis. Que nous puissions bâtir ton Église sur la louange, l'évangélisation, la communion fraternelle, le ministère et la formation des disciples. Que nous puissions être en meilleure santé et grandir davantage pour la gloire de ton royaume et pour notre propre croissance au nom de Jésus. Amen.